Bonjour et bienvenue dans Les Éphémères, édition hors-série. De retour avec Stéphanie, notre physiothérapeute du Centre d'expertise en rééducation pelvi-périnéale Cigogna à Sherbrooke pour le troisième hors-série qu'on vous avait promis, et cette fois-ci sur les suites de couches, aussi communément appelées le postpartum. Aujourd'hui, Stéphanie, tu vas nous parler de l'après-accouchement. Donc, le bébé est sorti, vous avez eu soit un accouchement par voie basse ou une césarienne, c'est les deux options.
Hein? Tout à fait.
Donc, on pourrait commencer tout de suite avec l'accouchement par voie basse. On parle souvent de déchirure.
Oui, puis ça, dans le fond, c'est probablement la première chose qu'on vous demande, malheureusement, mesdames, une fois que vous avez accouché. Comment ça a été ton accouchement? T'as-tu déchiré? Et puis, la première chose qu'on a le goût de dire, c'est mêle-toi de tes affaires.
Oui, c'est très intime, hein? C'est intrusif comme question.
Oui, tout à fait. Sachez, mesdames, que vous n'aurez pas besoin de mentionner les chiffres que je vais vous dire si vous le voulez pas. Tout simplement. Mais c'est important que vous soyez au courant, par contre. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez à consulter en rééducation périnéale pelvienne, ben sachez que nous, c'est une information qui peut nous aider dans votre traitement. Donc, d'être au courant de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, puis de quel stade de déchirure vous avez, ben ça va nous aider à vous outiller.
Excellent. Donc là, le grade 1, c'est quoi?
Bon, là, il faut comprendre que le périnée est divisé en différentes sections.
Okay? Encore une fois, si vous n'avez pas écouté le hors-série numéro 1 où on parle du périnée et des différentes structures, je vous recommande d'aller l'écouter avant parce que ça vous permet de mieux vous situer.
Exactement.
Dans la zone.
Oui, tout à fait. Il faut comprendre que les déchirures, il y en a à différents endroits. OK? Donc, il y a des déchirures qu'on dit qui sont périurétrales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déchirure est partout ailleurs qu'au niveau de la couche musculaire périnéale. Donc, ça peut être à côté du clitoris, ça pourrait être une déchirure qui part de l'entrée vaginale et qui s'en va plus vers le pubis, vers le haut. Puis, ces sections-là, c'est pas des muscles qui vont déchirer à ce moment-là, c'est vraiment de la peau. Puis, ça va être des structures qui sont non contractiles. Souvent, c'est davantage superficiel. Après ça, on peut avoir des déchirures qu'on appelle intravaginales, qui vont se retrouver vraiment juste à l'intérieur du vagin. Puis, le vagin, en tant que tel, c'est une structure élastique. C'est pas vraiment une structure qui est tout à fait remplie de muscles, parce que les muscles, dans le fond, vont être alentour du vagin. Mais le vagin, en tant que tel, c'est une enveloppe. Donc, elle aussi, elle peut être lésée. Donc, on peut avoir des lésions qu'on appelle périvaginales ou vaginales, donc qui sont à l'intérieur. C'est un petit peu plus touché à travailler ces cicatrices-là parce qu'elles sont un, pas visibles, mais deux, on les ressent beaucoup lors des relations sexuelles quand on s'en va vers la reprise. Par la suite, après ça, vous avez vos déchirures périnéales. C'est établi comme étant une déchirure qui part de l'entrée vaginale et ces déchirures-là vont partir soit vraiment de la partie la plus basse vers votre anus, de votre
donc,
entrée vaginale.
Donc, on a le petit losange de la vulve qu'on
exactement.
Voit.
Exactement. Vous avez votre
vagin.
Clitoris en haut, oui. Vous avez votre méo urinaire. Ensuite, vous avez votre entrée vaginale. Et puis, l'entrée vaginale qui va se retrouver vraiment celle, dans le fond, qui va être la plus proche de votre anus, ben souvent, les déchirures vont partir de là et vont se diriger soit du côté gauche, du côté droit ou central et vont se diriger tranquillement vers le pourtour anal. Et puis, c'est ces déchirures-là qu'on va coter dans un système de gradation de 1 à 4. Okay? Et puis, vraiment, ce qui va déterminer la cotation, c'est vraiment la distance qui va être parcourue par votre déchirure.
Ce n'est pas okay? le fait que les muscles superficiels ou que les muscles profonds sont atteints. C'est vraiment la longueur de la déchirure
exactement.
Qui détermine le grade.
Parce que ce qu'on sait, c'est que vous avez trois couches de muscles qui sont une par-dessus les autres. Puis, c'est rare. Il y en a certains médecins qui vont oser dire c'est un grade 1 léger, en voulant dire que c'était plus la peau puis les couches plus superficielles de muscles. Mais dès qu'on tombe dans le grade 2, c'est clair que toutes les couches, les trois couches, tu sais, des fois, on a l'impression que c'est vraiment distinct. C'est comme les couches de peau, hein. On a trois couches, tu sais, qui sont une sur les autres, mais quand on se coupe, la réalité, c'est que les trois couches vont être atteintes parce qu'on voit du sang. C'est un petit peu la même chose au niveau périnéal. Fait que dans le fond, ce serait utopique de dire que, juste ma première couche a été atteinte, quand en réalité, à moins de passer une échographie ou tu sais quelque chose de vraiment très localisé pour voir l'étendue des dommages, on prend pour acquis que les trois couches pourraient être atteintes.
D'accord. OK. OK. Donc le grade 1, c'est quoi?
Donc le grade 1, si on prend la partie la plus basse de votre entrée vaginale et le centre de votre anus et qu'on le divise en quatre parties différentes. OK? Donc je coupe le milieu et ensuite je redivise encore le milieu. Donc le premier degré, ça
le
va être...
Le premier quart, en fait. Là,
exactement. Le premier quart qui déchire, c'est un grade 1. Ensuite, quand on s'en va jusqu'à la moitié de la distance entre votre ouverture vaginale puis votre anus, on se retrouve avec un grade 2.
OK.
Et puis, quand on parle d'un grade 3, on parle d'un grade où est-ce qu'on se rapproche de l'anus. Et à partir du grade 3, on a des atteintes au niveau du sphincter anal. Parfois, certains médecins vont dire « Ah, oh, c'est un petit grade 3 », en voulant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'atteintes au niveau du sphincter anal. Il y en a d'autres qui disent ben, « C'est un bon 3, c'est proche d'un 4 ». Ça veut dire que le sphincter anal, il est touché davantage.
Et quand on parle de toucher, c'est-à-dire que là, ça se peut qu'on ait des séquelles au niveau de la rétention des selles, etc.
Le sphincter, lui, c'est vraiment comme un petit beigne qui va venir se resserrer, puis vraiment, typiquement, tu sais, au niveau de l'anus.
Fermer l'anus.
Qui va fermer l'anus, OK? Donc, si j'ai une atteinte, ben oui, ça se peut que j'aie moins de force au niveau de ma capacité de serrement. Puis, dans le fond, les conséquences qui peuvent en découler, ben c'est des pertes de sel, de gaz, ou sinon, des fois, des urgences fécales. C'est-à-dire, on ressent l'envie, mais la capacité de rétention est un peu moins présente sans nécessairement qu'on ait de l'incontinence. On va falloir qu'on se rende rapidement dans la salle de bain puis s'asseoir sur la toilette pour arriver à temps. Donc, parce que le contrôle est moins présent. Okay. Puis, quand on passe à un grade 4, le grade 4, tout simplement, c'est qu'on s'est rendu jusque dans la muqueuse anale. Ce que ça fait, c'est que ça a déchiré de bord en bord. À partir du grade 3, là, ça demande vraiment une expertise. Okay? Donc, souvent, si vous avez accouché en maison de naissance, c'est pour cette raison que souvent, ils vont, après l'accouchement, ils vont vous référer, vous retourner à l'hôpital pour que vous puissiez avoir des points de suture. Parce que quand on parle du sphincter, ça prend vraiment une expertise que les gynécologues ont développée pour pouvoir vous faire de belles sutures, puis qu'il y ait une récupération.
Que ce soit fonctionnel.
Que ce soit optimal.
Absolument. Tu veux pas que ce soit fait à moitié
non,
dans ce coin-là.
Tu veux pas de boboche là, dans ce coin-là. Ok, tu veux vraiment que ce soit optimal.
Excellent. Donc ça, c'est les différents grades. Lorsqu'il y a une déchirure, quand il y a une épisiotomie,
oui,
quelle est la différence?
Ben, l'épisiotomie, c'est que dans le fond, c'est un acte volontaire.
On coupe avec un scalpel.
Oui. C'est souvent un ciseau.
C'est des ciseaux?
Oui, c'est des ciseaux. Vous allez pouvoir voir si votre obstétricien est droitier ou gaucher, parce que les droitiers coupent toujours vers la droite et les gauchers vers la gauche. Ce que ça fait, c'est que souvent, ils vont volontairement faire une lésion de premier ou de deuxième degré pour justement éviter, chez certaines femmes qui sont hypertoniques, qui ont une très petite entrée vaginale avec un bébé qui se présente avec une énorme tête, ils vont essayer de faire dévier la déchirure. Au lieu qu'elle soit centrale puis qu'elle s'en aille directement vers l'anus, ce qu'ils veulent, c'est dévier un peu vers le côté pour justement éviter qu'il y ait des séquelles qui soient plus importantes.
Pour préserver le périnée.
Exactement.
C'est un peu ça l'idée.
C'est une des raisons pour lesquelles certains obstétriciens utilisent cette intervention-là.
Excellent. Puis
l'autre, c'est parce qu'ils ont besoin d'utiliser d'autres instruments et ils doivent absolument se faire de la place. Et pour se faire de la place, c'est tout simplement parce que, exemple, lors d'utilisation de forceps ou de ventouse, vous voulez pas que la cuillère, là, lorsqu'elle est utilisée, accroche le dessus de la tête de votre bébé. Parce que ça peut faire des hémorragies chez le bébé. Mm-hmm. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se laissent de la place pour vraiment aller mettre les cuillères alentour de la tête du bébé pour pouvoir, après ça, bien l'attraper puis l'aider à sortir le plus rapidement possible.
Excellent.
Donc, mais ça, c'est souvent fait davantage d'urgence ou dans des situations où le bébé
a besoin d'aide.
Okay. Tu sais que c'est une question là, de sécurité pour le bébé et pour la maman.
Donc, dis-nous, une fois qu'on a déchiré, qu'on a été recousu, après un accouchement vaginal, qu'est-ce qui est normal de ressentir?
Ben, c'est normal d'avoir de la douleur, aussi de la cicatrice. Okay? C'est normal d'avoir plus d'enflure. Dans l'épisode où est-ce que je vous parlais de la grossesse, que je vous disais tout le monde a un œdème vulvaire, ben après avoir eu des points de suture dans cette région-là, ben l'œdème peut perdurer un petit peu plus longtemps. Ça peut même devenir une sensation de lourdeur qui va venir s'installer.
Et ça peut être impressionnant, faut pas s'inquiéter là, mais des fois ça peut avoir vous avez l'impression que votre vulve va comme tripler, quadrupler de volume et être très rouge.
Essayez de penser à une chirurgie là, que vous avez pour n'importe quoi d'autre. Là. Si jamais vous avez eu des chirurgies pour le genou dans votre vie, là, votre genou il devient gros là, parce que on a joué dedans, on a fait des points, etc. Ben, c'est un petit peu la même chose qui se passe au niveau de votre périnée lors de l'accouchement. Puis surtout si on a dû faire des points pendant un petit bout de temps, tu sais, d'aller suturer chacune des couches musculaires une par une. Des fois, là, des points pour un grade 3 et un grade 4, là, ça peut dépasser une heure, là. Le jouage dans la plaie, ben, ça aussi, ça peut induire un petit peu d'enflure. Par contre, ce que vous ne devriez pas retrouver.
La plaie qui suinte?
Les plaies qui suintent, des écoulements qui sont jaunâtres, verdâtres, tout ça, c'est des beaux signes d'infection, ça. Okay. Quelque chose qui changerait de couleur de façon subite. C'est normal que ce soit rougeâtre, mais si, exemple, la zone devient beaucoup plus rouge, la douleur augmente de façon fulgurante, puis c'est comme la couleur vient à changer, là. Ça, c'est des signes d'infection. Donc ça, on reste attentif aux signes d'infection parce que une fois que vous êtes rendu à la maison, vous n'aurez pas de suivi avant un petit bout là, avec vos médecins. Là.
Donc, si vous accouchez en milieu hospitalier, si vous accouchez avec une sage-femme, il y a des suivis dans les jours suivants. Mais s'il y a quelque chose qui vous inquiète, contactez votre médecin, c'est important.
Hyper important. Sinon, pour les cicatrices qui sont davantage au niveau du ventre, exemple, on a une césarienne, ben là, typiquement, ils vont vous mettre des broches, ils vont vous taquer ça, là.
C'est refermé avec des broches?
Ouais, ça arrive souvent.
Okay. J'aurais pensé que c'était avec du fil.
Il y en a certains, ça dépend vraiment de ce que la personne qui vous a fait votre césarienne utilise.
Okay.
Fait que ça arrive d'avoir des broches, ça arrive d'avoir juste point de suture, ça arrive que les points sont internes avec des points de rapprochement. Il y a différentes techniques.
D'accord.
Puis, dans le fond, elles s'équivalent pas mal toutes, là. Ce qui est important, c'est la même chose, tu sais. C'est normal d'avoir de l'enflure. Si vous aviez peu ou pas d'enflure au niveau de la vulve, vraiment, là, très proche de l'endroit où est-ce que vous avez eu votre césarienne, ça se peut qu'il s'en développe parce que ça vient juste tout simplement enfler. L'autre aspect, c'est qu'il peut avoir des douleurs lorsque vous bougez, lors des retournements au lit, dans les déplacements. Au début, c'est très normal parce que vous avez besoin de vos abdominaux pour faire ces actions-là. Puis, dans le fond, vos abdominaux viennent d'être réparés. Donc, d'où l'importance de soulever à peu près rien et de faire très peu de choses pour vous permettre de récupérer. Même chose pour les autres types de cicatrices, si vous avez des écoulements ou il y a un autre point que j'ai pas nommé tantôt là, une déhiscence de plaie. OK, soyez à l'affût.
C'est quoi une déhiscence de plaie?
Déhiscence là, ça veut dire que ça rouvre.
OK. Oh. Ça, ouais, là, effectivement, c'est assez
ça,
urgent.
Il faut regarder. OK? Fait que c'est pour ça, tu sais, dans les épisodes précédents, je disais faut prendre l'habitude de se regarder puis de connaître sa vulve. C'est encore plus important. Si vous voulez pas le faire, dans le fond, vous pouvez demander à votre conjoint de le faire pour vous à ce moment-là. OK? Mais c'est important ça aussi parce que s'il y a un point qui lâche puis que vous vous ramassez avec une ouverture, après un certain temps, on peut plus rien faire là pour revenir coller. Ils referont pas les points. Et à ce moment-là, il faut laisser la plaie guérir ouverte. Et ça, à ce moment-là, ça va prendre plus de tissu de collagène pour venir refermer le trou si on referme pas la peau. Et ça peut vous mettre à risque pour des déchirures prochaines.
OK.
Pour d'autres accouchements, exemple.
D'accord. Donc, c'est important de bien regarder, s'assurer qu'il n'y a rien hors de l'ordinaire et en cas de question, on consulte.
Tout à fait, puis on n'hésite pas surtout.
Fantastique. Là, il y a une chose que tu as mentionnée, c'est récupérer. C'est pas juste dans le cas d'une césarienne. La récupération, c'est primordial.
Tout à fait.
Et c'est pas seulement une journée.
Non, non, non. Ce qu'on sait, c'est que, bon, plusieurs auteurs là, nous parlent du fameux 6 semaines. Puis dans le fond, ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, les évidences tendent à nous amener vers ce fameux 6 semaines où est-ce qu'on recommande davantage la position couchée que la position assise ou debout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est couché, ben on permet une certaine récupération au niveau du périnée si on a eu un accouchement par voie basse. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet aux organes de reprendre leur place davantage au niveau abdominal. Ça permet de limiter les impacts au niveau du périnée parce que en postpartum, ce qui est tout à fait normal de voir après un accouchement vaginal, c'est ce qu'on appelle une béance vaginale. Un très beau mot pour dire que le bébé est sorti, il a bien ouvert tout ça et puis ça ne se referme pas tout de suite tout seul, OK? Donc, ça va prendre plusieurs semaines avant que l'entrée vaginale retrouve une grosseur qui est considérée comme normale, OK? Donc, c'est comme un peu si vous aviez laissé votre porte. Si je reprends l'analogie que je vous ai racontée par rapport à vulve et vagin la dernière fois, c'est comme si vous laissiez votre porte d'entrée tout grande ouverte. OK? Donc, c'est beaucoup plus facile pour qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de vouloir sortir à l'extérieur.
Oui. Okay? Et ça, c'est pas pour vous faire peur, mais les descentes d'organes se produisent parce que les femmes se remettent à vaquer à leurs occupations comme avant.
Trop rapidement.
Oui. Et c'est certain que dans notre société, on valorise beaucoup la performance. Madame a 3 enfants, elle se dit « je suis capable, moi, de m'occuper de mes enfants ». Mon chum retourne travailler, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais qu'il y a des implications possibles.
Puis souvent, il y en a certaines. Moi, en clinique, là, c'est malheureux. Puis moi, j'aimerais ça en voir moins de ces femmes-là. Mm-hmm. Des appels un peu en panique, là, du genre « ça fait 3 semaines que j'ai accouché, on est allé faire une randonnée, puis là, il y a une masse qui sort de mon vagin, c'est quoi ça? » Puis qui veulent un rendez-vous tout de suite. Fait qu'on essaie de les voir très rapidement.
La masse, ça peut être quoi?
Ça peut être la vessie qui sort, ça peut être l'utérus qui descend, ça peut être le rectum.
Vous voyez pas mes yeux, mais ça...
On voit la peur.
C'est effrayant. Effrayant parce qu'on s'entend que c'est pas dans l'ordre des choses. Donc, faut laisser le temps au corps de se replacer. C'est une belle machine, mais il faut vraiment lui laisser la chance de se replacer pour que vous puissiez vaquer à vos occupations comme avant.
Exactement. Puis, dans le fond, on dit souvent, moi, j'essaie de relativiser. Parce que là, souvent, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est trop difficile, c'est trop long. Dans le temps, là, 6 semaines, là, à vraiment prendre une pause. Si on regarde par rapport à la longueur de votre vie, là, tu sais, qui vous attend devant vous, puis ce que vous avez derrière vous, on s'entend-tu que 6 semaines, c'est infime? Ça va paraître long sur le moment, mais une fois que vous allez avoir réussi à passer cette période-là, quand vous allez repenser, là, quand votre enfant va être rendu à 18 ans, cette période de temps-là va paraître tellement plus courte que...
Mais une des choses à dire, par contre, et on s'en est rendu compte avec la COVID, c'est que dans nos sociétés occidentales aussi, on a souvent moins accès à de l'aide. Donc, pas hésiter de demander de l'aide. Déjà, est-ce que c'est possible de venir me porter des repas aux États-Unis? Ils parlent d'un train, un food train.
Oui.
Donc, essentiellement, les gens se relaient dans l'entourage. Des fois, c'est des voisins. Ça peut être la grand-maman qui vient pour donner un coup de main.
Exactement.
Mais demander de l'aide parce que avoir un enfant, c'est très impliquant pour vous. Mais ça fait partie aussi des réflexions à avoir avant la naissance de l'enfant parce que la récupération, ça va faire toute la différence pour vous.
Puis, il y a plusieurs systèmes d'aide externe qui peuvent vous être offerts aussi par votre CLSC. Là.
Des systèmes de relevailles.
Ça existe dans plusieurs régions au Québec, les marraines tendresse, qui sont des femmes qui sont principalement retraitées, qui viennent s'occuper de bébés à la maison pendant que vous pouvez vous reposer. Il y a différents services. Là. Il y a aussi, pendant le COVID, dans le fond, d'Alte Poussette, qui prennent bébé, ils vont faire un tour de poussette pendant que vous, vous vaquez à vos occupations ou vous dormez votre heure de sommeil tant méritée, mesdames.
Et quand tu parlais de relativiser, quand on dit rester couché le plus possible, ça ne veut pas dire non plus ne pas se lever même pour aller aux toilettes. Là.
Non, c'est pas ça.
C'est de rester couché, allongé, dans une position allongée le plus fréquemment possible.
Oui, tout à fait. Ce qu'on veut, c'est essayer de laisser un break à notre périnée. Parce qu'il vient de manger sa claque, OK? Et c'est normal qu'il ait besoin de récupération. Et puis, plus qu'on va être en position où est-ce qu'on va lui permettre de reprendre sa place, parce que j'ai déjà expliqué, c'est un muscle, c'est un hamac, il s'attache à l'avant au niveau du pubis et à l'arrière au niveau du sacrum. Puis quand le bébé va sortir, il va être tiré vers le bas et vers la sortie. Ce qu'on veut, c'est qu'il reprenne sa position d'avant qui est plus haute et plus refermé au niveau de l'entrée vaginale. Donc, si je me mets dans une position où est-ce que je suis toujours debout ou que je reste debout dans des positions prolongées, mais ce que ça fait, c'est que ça permet pas cette reprise de position initiale par le périnée. Vous voulez juste vous permettre d'avoir une récupération spontanée la meilleure possible. Ça, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire parce que c'est gratuit.
Et ça nous amène à la reprise des activités physiques.
Oui,
parce que il y a le 8 semaines qui est véhiculé beaucoup, comme quoi que après 8 semaines vous pouvez recommencer, juste voir un médecin. Mais est-ce que dans les faits c'est toujours comme ça?
L'affaire là-dedans, c'est que tu sais nos médecins actuellement, là, on s'entend-tu, ils sont débordés. Leur tâche est tellement grande que c'est difficile pour eux, non seulement tu sais de prendre énormément de temps pour les consultations, ils font de leur mieux avec qu'est-ce qu'ils ont. Puis il y a certains médecins pour qui la population de femmes en postpartum, c'est peut-être pas nécessairement leur spécialité ou leur dada. Chacun des médecins, ils ont tellement de choses à connaître que ça vient difficile pour eux nécessairement de toujours se garder à jour. Il y en a que le périnée, puis le retour à l'activité physique, ça les stimule, puis c'est vraiment leur dada. Fait qu'eux, ils vont se tenir vraiment à jour selon les dernières recommandations. Puis ça évolue vite. Même ouais. nous, des fois, moi, je suis... Dans ma pratique, je fais que de la rééducation périnéale, puis même moi, des fois, je trouve ça un peu étourdissant parce que les recommandations changent très rapidement. Donc, ce qu'on dit, oui, là, ok, du médecin, c'est correct parce que lui, dans le fond, ce qu'il va faire, là, c'est qu'il va regarder votre santé globale principalement, ok. Il va s'assurer que vous ayez pas de problème au niveau de votre thyroïde, que votre cœur soit en bon état, que votre pression soit belle, dans le fond, que vous ayez toutes les caractéristiques physiques, que vous soyez pas en état d'infection, que vous ayez pas de grosses problématiques de santé qui serait un frein à la reprise d'activité physique. Donc, principalement, c'est ça son rôle à votre médecin de famille.
Okay? Mais les structures musculaires, ils ne les regardent pas vraiment.
Ils ne vont pas évaluer de la même façon que vont le faire un physiothérapeute, puis surtout que, comme moi, qui est spécialisée en rééducation périnéale pelvienne, parce que moi, je ne compte plus les heures de formation continue que j'ai explicitement sur ce sujet-là. Puis même moi, en physiothérapie, je suis dans une niche, là. Je suis vraiment dans un secteur où est-ce que on se sur-spécialise. Fait qu'imaginez les informations que nous, qu'on a en physiothérapie par rapport à la musculature puis par rapport à la reprise d'activité physique, c'est notre sur-sur-spécialité.
Donc, à la limite, si vous avez un choix à faire, moi, je vous recommande fortement la physio pour savoir si vous êtes prête à reprendre une activité physique. Parce que ce qui peut arriver, si vous la reprenez et que vous n'êtes pas suffisamment solide, même après 8 semaines, les descentes d'organes vont arriver.
Non, tout à fait.
Et avec la multiplication des réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes, là, c'est des mommies, fit mommies. Donc, pendant la grossesse, elles s'entraînent, ce qui est très bien. D'ailleurs, on le recommande.
Ça, c'est recommandé là, pendant la grossesse.
Mais l'idée, c'est de retrouver son ventre plat le plus rapidement possible, son six-pack le plus rapidement possible.
Perdre le poids de grossesse rapidement.
Puis 2-3 semaines après l'accouchement, on les retrouve en train de faire du sport. Ces femmes-là vont se ramasser dans ton bureau.
Ben c'est un peu ça. Il faut toujours relativiser. Tu sais, vous avez Serena Williams qui était une super joueuse de tennis étoile qui a eu sa fille et puis qui est retournée sur les circuits internationaux l'année suivante. Mais même elle, ça lui a pris un certain temps avant de revenir. Mm-hmm. Mais tu sais, elle s'est probablement pas lancée là-dedans toute seule. Elle avait probablement nutritionniste, entraîneur, physiothérapeute.
Ils ont pas les mêmes moyens que nous, ces gens-là.
Ben c'est un peu ça. Oui. Donc tu sais, on peut pas s'attendre à avoir la même reprise d'activité chez une athlète professionnelle que chez.
Dont c'est le métier.
C'est le métier. C'est exactement ça. Elle gagne sa vie en jouant au tennis versus, mettons, moi, Stéphanie, maman de bientôt 4 enfants, que j'aime faire du jogging 2 fois par semaine.
C'est différent.
C'est différent parce que mon niveau d'entraînement puis mon niveau de préparation pré-poste est pas tout à fait le même, là. OK? On n'est pas au même endroit.
Non.
La Société des obstétriciens gynécologues du Canada recommande maintenant, puis j'ai relu ça, là, 4 mois avant la reprise d'activité physique avec impact. Parce que vraiment, ça a une incidence sur les problématiques périnéales qu'on peut retrouver en postpartum. Mm-hmm. Faut vraiment se mettre un frein dans notre volonté de vouloir reprendre les activités trop rapidement. Il faut vraiment s'assurer, un, qu'on ait refermé au niveau de l'entrée vaginale, que nos muscles soient forts, endurants et rapides, que notre coordination entre nos muscles abdominaux et nos muscles au niveau du périnée soit revenue. C'est-à-dire, quand je force avec mon ventre, faut que mon périnée suive la ronde. Faut que lui-même, il vienne
Faut qu'il y ait un mouvement d'entraînement.
Exactement. Fait que, dans le fond, faut retrouver ça. Après ça, mes abdominaux, faut que je m'assure que j'ai pas de diastase. Parce que si j'ai encore une diastase...
Donc, on parle encore de la séparation.
La séparation des grands droits. Puis, la fameuse diastase, là, en postpartum, là, on l'appelle vraiment diastase. Dans les 3 mois qui suivent l'accouchement, ça devrait récupérer. Si dépassé notre 3 mois, on a encore une bonne séparation entre nos abdominaux. Puis nous, en clinique, comme physiothérapeute, on regarde pas juste la largeur des doigts. Parce que moi, j'ai déjà vu des femmes qui, théoriquement, se classaient pour avoir une diastase.
C'est-à-dire qu'on pouvait insérer des doigts.
On pouvait insérer, non, on dit normalement 2 doigts de large.
Okay? OK.
Après ça, l'autre étape, c'est de regarder la profondeur.
OK.
Puis de voir est-ce qu'il y a un soutien. Parce qu'il y en a qui ont 3 doigts, mais que c'est très superficiel. Et puis quand on demande un relevé de tête, ben il y a pas de bombement qu'on voit au niveau de l'abdomen. C'est fonctionnel parce que les muscles font leur job comme il faut
de retenir les organes à l'intérieur.
Et voilà, c'est exactement ça.
Parfait.
OK. Par contre, j'ai des filles qui ont 2 doigts que théoriquement sont pas tout à fait en situation de diastase qui pourrait être problématique, mais par contre le 2 doigts est super profond ils relèvent un petit peu leur tête, j'ai l'impression que tout va sortir par leur ventre.
OK, donc okay? Là, c'est important, si vous recommencez l'activité physique dans ces circonstances-là, il est très possible que vous vous déplaciez quelque chose.
Bien, c'est très possible que ça empire. Puis l'affaire, c'est que physiquement, au début, ça paraît pas tant, mais à la longue, vous allez... Typiquement, les femmes vont comme garder comme une espèce de ventre de grossesse. Puis ils vont se faire redemander, tu sais, « Ah, mais t'es-tu en début de grossesse? T'es-tu enceinte de nouveau? » Puis ils vont faire comme « Non, c'est comme les vestiges de mon ancienne grossesse. » Fait que souvent, ça va paraître un peu physiquement aussi. Puis c'est ça qui va bugger aussi les femmes parce que l'aspect de quoi j'ai l'air est aussi important là, au niveau de la diastase. Ce qu'on sait, c'est qu'avec des exercices où est-ce qu'on va recruter le muscle qui s'appelle le transverse de l'abdomen.
Le profond.
Notre muscle le plus profond.
On en parle dans l'épisode numéro 2 là, pour les exercices de renforcement. Donc, vous pouvez vous référer à ça aussi, mais
exactement.
On peut peut-être faire un petit rappel.
Dans le fond, ce muscle-là permet de vous gainer hein, et de bien stabiliser votre bassin, puis permet de garder les organes et de rediriger la pression intra-abdominale lors des efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites un effort ou quand vous... Spécifiquement, là, moi, mon meilleur exemple, c'est quand on tousse. Hein. L'objectif quand on tousse, c'est de dégager les voies respiratoires supérieures. Fait que théoriquement, nos abdominaux devraient travailler pour pas que ça pousse dans notre fond de culotte. C'est à ça que ça sert, des bons abdominaux, à rediriger la pression.
Au-delà de l'apparence physique, c'est vraiment au niveau fonctionnel. Parce que c'est, il y a une pression tellement forte qui se fait dans la cage thoracique que si votre plancher pelvien et vos abdos sont pas assez forts, ça fait tout descendre vers le bas et les descentes d'organes rendues à 60, 65 ans ou peut-être même avant vont se produire. Donc, c'est pas juste une question d'apparence physique.
Ce qu'on voit souvent, c'est les femmes qui prennent pas bien soin de leur corps en postpartum peuvent s'en tirer pendant quelques années. Mais souvent, où est-ce que ça va revenir au galop? C'est que toutes les faiblesses qu'ils ont cumulées dans le temps puis qu'ils n'ont pas travaillé, ben c'est lors de la ménopause que ça va ressortir. Parce que là, la deuxième série de cocktails hormonales s'imbriquent. Et puis là, c'est ça qui fait en sorte que ça vient changer
Excellent.
La donne.
Donc, le conseil, c'est vraiment, je vais parler à mon nom personnel. Après avoir accouché, moi, j'irai vous consulter pour m'assurer d'abord que mes muscles fonctionnent correctement. Et c'est à vous que je vais demander mon go. Avant de retourner faire
du
sport.
Mais c'est ce qu'on recommande aussi. Puis comme je vous disais, il y a différents types de praticiens ou de professionnels. Faites juste demander à votre praticien en quoi consiste leur évaluation, puis s'ils vont faire une validation de votre diastase puis de votre périnée. S'il dit ben moi d'emblée on fait juste se parler, je fais pas nécessairement d'examen physique, ben vous avez déjà votre réponse. Donc à ce moment-là, vous seriez avantagé à aller consulter un physiothérapeute en rééducation périnéale pelvienne pour avoir votre go pour retourner.
Encore une fois, c'est pas 40 séances là.
Non, c'est pas 40
rapide,
séances. Puis il y en a des femmes qui viennent me voir, puis ils sont à 2 mois, puis mon Dieu, les abdominaux sont revenus comme avant, le périnée est revenu, force de 5/5, endurance qui est écœurante, tu sais, tout va bien. Mais à ce moment-là, ces femmes-là, tu sais, oui, sur papier, c'est marqué 4 mois là. Mais si ces femmes-là, pour elles, ils ont déjà atteint les objectifs qu'on devrait atteindre au 4e mois, ben elles, on va leur dire, ben tu peux peut-être reprendre de façon un petit peu plus progressive. Puis d'un autre côté, c'est pas parce que vous êtes rendu à 4 mois que je vais vous dire go, allez-y. Peut-être que vous allez être en manque de force puis en manque d'endurance, puis à ce moment-là que ça va être encore un facteur de risque plutôt. Il y a pas de danger là, c'est pas que votre organe va sortir au bout d'une corde là. C'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus vicieux puis insidieux que ça, parce que quand une descente d'organe commence, souvent on le voit pas, puis c'est quand qu'on commence à le sentir puis que ce soit apparent que ça devient vraiment problématique avec beaucoup de symptômes. Donc si on peut prévenir ça d'avance. Puis tu sais, là on en parle présentement dans le postpartum, mais tu sais, sachez que les descentes d'organes peuvent arriver à tous les stades de votre vie là, OK?
Ouais, ça a pas besoin d'être lié à une grossesse et vous avez pas besoin non plus d'avoir eu des grossesses.
Exactement.
Ouais.
Mais on en parle là parce que la plupart du temps, c'est à ce moment-ci qu'on va davantage le voir et le noter.
Là, on parle de reprise des activités physiques. Ce qui arrive plus fréquemment, qu'on veut recommencer avant, c'est l'activité sexuelle.
Ben ça aussi, ça fait partie des choses qu'on veut reprendre. Hein. Puis des fois, ça va rebuter certaines femmes. Le fait d'avoir une cicatrice, ça joue autant sur le physique que sur le psychologique, je vous dirais.
Mm-hmm.
Parce que les femmes vont anticiper, puis ils vont avoir vraiment une crainte par rapport à comment ça va se passer. Le fait d'avoir peur, ben ça nous met dans un état où est-ce qu'on est plus crispé. Puis, ça favorise l'apparition de douleur. Donc, souvent, ce qu'on va recommander, c'est d'attendre un certain temps, mais en même temps, de pas attendre trop longtemps.
Okay? Encore une fois, ça dépend de plein de facteurs.
De tout à fait. Là, on s'entend, là, il y a des bébés que tu dis, on est revenu de l'hôpital, puis mon Dieu, il a fait son nuit dès le départ. Ben tant mieux pour vous.
Oui, parce que la fatigue, ça joue beaucoup sur la libido et tout ça.
C'est exactement ça. Sinon, c'est tant mieux pour vous. On vous félicite. Puis, on arrête d'en parler parce que...
C'est pas tant que je vous félicite. Moi, si je vous envie, je dois le dire.
C'est ça, je veux dire, on n'en parlera pas trop longtemps, ça suscite la jalousie rapidement, ça. Tu dis ça, t'en parles pas.
De l'envie.
C'est exactement ça. Donc, si vous avez la possibilité de reprendre vos ébats sexuels, bon, première chose à vous demander, est-ce que j'ai une déchirure? Si la réponse est oui, vous devez absolument attendre la chute de votre dernier point de suture, s'il vous plaît. OK? Ces points-là, dans le fond, vont fondre au fur et à mesure avec les semaines. Puis souvent, quand on va se retrouver un 6 semaines postpartum dans ces environs-là, on devrait plus en retrouver. Ça vous donne un signe sur si vos tissus sont capables de soutenir une pénétration vaginale ou non. Première chose, on s'assure que la cicatrice est belle et qu'il n'y a plus de points qui sont apparents. Ensuite, si on a eu une infection ou une déhiscence, il faut absolument avoir le go de votre professionnel de la santé.
Okay? Donc, si la plaie s'est rouverte.
Oui, si la plaie s'est rouverte et puis que vous avez dû avoir d'autres points ou que vous avez eu une infection plus particulière, vous avez été sous traitement antibiotique, ce que vous voulez vous assurer, c'est que le fait, dans le fond, d'avoir une pénétration vaginale, ça ne viendra pas à l'encontre du traitement que vous avez, mm-hmm. OK, ou que vous avez reçu. Donc, à ce moment-là, c'est important que votre professionnel de la santé vous dise, OK, oui, là, c'est correct, vous pouvez reprendre vos relations sexuelles avec pénétration. Par la suite, c'est de se lancer. Puis c'est ça, des fois, qui peut être le plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte. Moi, je vous dirais que c'est important de reprendre les relations sexuelles dans les 6 mois suivant l'accouchement. Souvent, quand on va essayer de retarder davantage la relation sexuelle, ce qui se passe, c'est que là, on rentre déjà dans un cycle d'appréhension de douleur mm-hmm. qui va favoriser l'apparition de douleur
oui.
puis de comportements qui vont faire en sorte que...
Les comportements évitants qui
exactement.
Vont ouais, amplifier le cycle.
Exactement. Par contre, il faut garder en tête, si vous allaitez, postpartum, il y a toujours un effet d'assèchement vaginal. Parce que si vous l'avez vécu, si vous avez déjà allaité dans le passé, votre cycle hormonal ne revient pas comme avant. Pour la plupart des femmes, je dirais, il n'y a pas de cycle menstruel qui va se faire parce que les hormones, dans le fond, qui sont impliquées pour l'allaitement vont faire en sorte que ça va limiter les fluctuations hormonales qui normalement régissent le cycle. OK? Vous n'aurez pas d'ovulation, donc il n'y aura pas d'épaississement de votre endomètre. Donc, au final, vous n'aurez pas de menstruation. Mais ces cycles-là, c'est aussi les cycles qui permettent à votre entrée vaginale d'être toute fluffy, OK, d'être toute rose, d'être bien colorée,
ouais.
Puis d'être
attirante.
Et tout ça, ça s'en va. C'est un avant-goût de la ménopause. Donc, sécheresse vaginale, c'est fréquent. Que ça fasse comme une sensation, pas nécessairement de douleur, mais d'inconfort, comme si on était sèche. Dans cette période-là, puis surtout quand l'allaitement est exclusif, ça va s'amplifier davantage. Fait que dans ces situations-là, souvent, ben un hydratant vaginal, c'est quelque chose qu'on va recommander.
Est-ce que c'est la même chose qu'un lubrifiant?
No.
Non, OK.
Dans le fond, je t'explique la différence. Un hydratant, ça hydrate. C'est comme ta crème Aveeno que tu mets sur ta peau pour
d'accord.
qu'elle soit hydratée.
OK.
Tu te mets pas de la WD-40 sur ta peau. Tu mets de la Aveeno. C'est pour hydrater, OK? Je dis Aveeno, ça pourrait être n'importe quelle sorte de
oui.
crème, mais bref. Et un lubrifiant, c'est pour que ça glisse. Ça n'a aucun pouvoir hydratant. Ça va pas comme pénétrer à l'intérieur de ta peau pour vraiment aider à améliorer l'hydratation. C'est un facteur qui va faire en sorte que la friction va être moins présente puis que ça va glisser davantage.
OK.
OK? Donc, lorsqu'on allaite, puis qu'on pense reprendre les activités sexuelles, c'est une bonne idée d'utiliser un hydratant vaginal.
On achète ça où?
Ça s'achète en pharmacie, puis nous, en clinique, on en tient.
Encore une fois, bien regarder les ingrédients.
Oui, tout à fait.
Pour pas utiliser de produits qui peuvent être irritants.
Tout à fait.
Propylène glycol, je sais pas s'il y en a là-dedans, mais on en a parlé à l'épisode numéro 1.
Tout à fait. Ça, c'est plus dans les lubrifiants qu'on va retrouver ça.
Okay.
Dans les hydratants, il y a différentes marques. Je vous en nomme un pour en nommer un, là, du Ginatrof. C'est un hydratant vaginal qu'on vient appliquer avec un petit applicateur, puis qu'on met le soir avant le coucher. Puis dans le fond, ça va aider le vagin à rester davantage hydraté.
Excellent. Parfait. Donc ça aide là. Tu mentionnais également parce qu'on s'est préparé hein cet épisode, tu nous parlais bon, il y a des fluctuations de la libido qui sont liées aux hormones,
tout à fait.
Que vous allaitez ou non, ça c'est sûr qu'il va
tout
y en
fait.
Avoir, il y a des douleurs ou la peur de la douleur,
tout
mais
à
les
fait.
Sensations
oui, dans le fond,
sont différentes.
Tout à fait, parce que les tissus vaginaux, ils ont vraiment été surétirés. Fait que lors des premières relations sexuelles, ça se peut que vous ressentiez un petit peu moins la pénétration. surtout si vous reprenez les relations sexuelles, tu sais, dans le mois, dans les deux mois qui suivent l'accouchement, c'est clair que vous n'aurez pas autant de sensations de frottement qu'avant. Et là, ne paniquez pas. La première pensée que les filles disent, non, mais tu sais, je vais-tu rester, excusez le mot, là, mais les femmes me disent, je vais-tu rester slack comme
ouais.
ça?
Mm-hmm.
OK? C'est une crainte, hein?
Est-ce que ça va revenir?
Oui, ça revient. OK? Mais souvent, c'est en lien avec la béance vaginale, qui est tout à fait normale jusqu'à dans le 3 mois postpartum. Fait que si on reprend les activités avant, ce qui est tout à fait correct, mais ça se peut que vous ressentiez moins de frottement. Puis qu'à ce moment-là, si vous, vous aviez votre principal plaisir lors de la pénétration vaginale, ben ça se pourrait que votre atteinte de l'orgasme soit plus difficile, que ce soit plus long et que l'orgasme soit moins fort. Au fur et à mesure que vous allez reprendre les relations sexuelles, ce qui est magique avec ça, c'est que lorsqu'on atteint l'orgasme, vos muscles pelviens vont venir se contracter et se relâcher. Donc, plus que vous allez avoir d'activité sexuelle, non seulement ça va venir aider pour la reprise de perception, parce que justement le fait d'avoir des mouvements de va-et-vient et autres, ça va venir améliorer votre perception de sensation, ça va venir faire travailler un petit peu votre périnée, ça va faire retravailler les structures qui doivent se gorger de sang, puis ça remet un petit peu la machine en route.
Ben comme quoi, le corps est une machine incroyable, hein, parce que tout est connecté. Là, vous reprenez l'activité physique, vous reprenez l'activité sexuelle, votre périnée se recontracte. Il n'y a rien de mieux.
Exactement. Faites attention des reprises d'activité trop rapides. Tu sais, souvent, nous autres en clinique, ce qu'on va recommander, là, si vous avez une douleur, si on se fait une échelle là, de 0, étant vous n'avez aucune douleur, et 10 sur 10 étant la douleur la plus intense que vous n'avez jamais connue de votre vie. Bon, et là, vous venez de sortir d'un accouchement, donc vous avez un exemple d'un 10 sur 10. Les douleurs lors des relations sexuelles, quand ça dépasse le 5, c'est un signe qu'on ne devrait pas perdurer dans cette activité-là.
Ouais.
Donc, soit qu'on change de position pour essayer de trouver quelque chose qui est moins sensible, soit tout simplement qu'on arrête la pénétration si c'est ça la cause de la douleur. Donc, on y aille avec quelque chose de différent. C'est le temps de sortir votre arsenal. Vous sortez votre créativité. On parle d'amour oral. On peut utiliser de la vibration avec différents objets, etc. pour atteindre quand même un niveau de satisfaction sexuelle qui va vous satisfaire, vous et votre partenaire. L'objectif, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, de se retrouver, d'être proche. Fait que même si ça implique pas une pénétration à ce moment-là, c'est pas grave.
OK.
L'important, c'est de retrouver l'intimité puis de retrouver le plaisir. Puis ça, ça va venir aider à retrouver la pénétration.
Excellent.
Parce que si on s'arrête à dire, ben la pénétration marche pas, fait qu'on fait rien, ben là, à ce moment-là, on se met des bâtons un petit peu dans les roues. Donc, c'est un petit conseil à vous donner.
Là, on parle d'activité sexuelle. Il y a des choses qu'on ne devrait pas faire dans les jours. Après, je sais pas combien de temps il faut l'éviter, là. Les bains, les piscines,
oui.
Qu'est-ce qui est recommandé pour ça?
Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a un mélange entre des bains de siège et des bains réguliers. Si j'ai une cicatrice au niveau périnéal ou j'ai des hémorroïdes, on va me dire, fais-toi un bain de siège. Un bain de siège, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le faire, exemple, sur la bolle de toilette, où est-ce qu'on met de l'eau, etc., ben, vous pouvez aller dans un bain régulier, OK? Sauf que là, ce qu'on parle, c'est 1 pouce à 2 pouces d'eau, juste assez pour submerger le bas de vos fesses et la région périnéale, seulement pour que vous puissiez aller un petit peu dans l'eau puis soulager les douleurs, puis nettoyer davantage les régions sans avoir à frotter. Un bain, c'est quand vous mettez de l'eau puis que ça vous arrive plus haut que le nombril puis que là, vous macérez là, dedans. Ce qui se passe, c'est quand vous prenez un bain ou c'est quand vous sautez dans votre piscine, quand vous sautez dans votre spa, il y a de l'eau qui peut rentrer par l'entrée vaginale. Et là, on s'est dit, l'entrée vaginale est plus grande, il y a de la béance vaginale, c'est normal. Donc, la possibilité que l'eau entre à l'intérieur de votre vagin est beaucoup plus grande. Votre utérus n'a peut-être pas nécessairement terminé de se refermer au complet. Donc, okay. Ça pourrait vous occasionner une infection au niveau de votre utérus, ce qu'on ne veut pas.
Si jamais il y a des germes ou des bactéries.
Exactement, ouais. Tout à fait. Et puis, sinon, l'autre chose, ça peut vous occasionner une vilaine vaginite.
Donc, vraiment, à éviter pendant un certain temps, là, le temps que la béance se referme un petit peu.
Exactement.
Prenez des douches à la place.
Tout à fait, parce que, tu sais, c'est plate. Tu as déjà la béance vaginale, tu te remets de ton accouchement, puis en plus, tu tapes une infection vaginale.
Oui,
et c'est quoi de plus plate que ça?
Oui, effectivement.
C'est exactement ça.
Pas très agréable.
Puis, tout dépendamment des professionnels de la santé, puis tout dépendamment de votre condition, souvent, quand on va faire l'espèce de retour postpartum là, de 6 semaines, souvent, on va donner le go, puis on va dire oui, parfait. T'sais, ils vont palper l'utérus s'il est retourné à sa place. Des fois, ils vont valider si vous aviez une condition particulière au niveau de votre col, exemple, tout ça. Ils vont regarder, voir si c'est correct. Fait que à ce moment-là, ils vont souvent vous dire ah, oui, c'est correct, là, tu peux recommencer les bains. Mais tu sais, immédiatement après, là, je sais, c'est plate, on accouche en pleine canicule, tout le monde est dans la piscine, là, on est mieux de rester à l'air clair.
Mettez vos pieds dans l'eau à la place.
Tout à fait.
Ça fait pareil. Il y a d'autres choses qu'on évite, encore une fois, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est les soulèvements de charge pour éviter les descentes d'organes.
Exactement. Puis aussi pour les descentes de plaies là, au niveau des femmes qui ont eu des césariennes, ça peut ouvrir, là, OK? On essaie d'éviter qu'est-ce qui pourrait solliciter trop la musculature, puis le soulèvement de charge, ça en fait partie.
Donc, quand on parle de soulèvement de charge, là, on parle de charge, c'est quoi? C'est plus que 10 livres, 15
Souvent,
livres?
Souvent, on va tourner aux alentours du 15 livres et plus.
OK, okay? Excellent.
Puis là, c'est ça qui est plate. C'est que là, si, exemple, on vient d'avoir un accouchement par césarienne, puis là, qu'on revient à la maison, puis là, on a notre petite 2 ans et demi qui veut tellement qu'on le prenne, trouver des alternatives.
Peut-être se mettre sur les genoux à sa hauteur pour lui faire un câlin.
Exactement. Assoyez-vous sur une chaise puis demandez à l'enfant qui grimpe.
De monter.
Mm-hmm. Tout à fait. Donc
on vous dit pas de pas prendre vos enfants dans vos bras, mais juste de se ménager là.
Oui. Tout à fait. Tu sais, les sacs d'épicerie, c'est pas temps d'aller faire le truc au Costco. Puis faites attention, une coquille avec un bébé naissant, c'est pas lourd. Vous rajoutez la coquille. Et ça devient extrêmement lourd rapidement.
Ouais.
Et ça, on dépasse les 15 livres facilement.
Okay. Donc, de faire attention. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, par contre, pour ça, hein, malheureusement. Là.
Ben,
plier
souvent,
les genoux, contracter les abdos.
Tout à fait, mais vraiment, là, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, exemple, si vous avez à sortir pour un rendez-vous pour bébé qui a une problématique X puis qui doit aller à l'hôpital, demandez à quelqu'un qui vous accompagne puis que cette personne-là
transporte le bébé
puis une fois, tu sais, vous mettez la coquille sur votre poussette puis une fois vous êtes en poussette, vous êtes good to go.
Excellent.
Mais vraiment demander de l'aide là, pour ces transitions-là, puis n'hésitez pas à le demander, parce que ça, c'est des petits gestes qui sont dommageables au quotidien puis qui peuvent être facilement évités.
Surtout si ça se répète.
Tout à fait.
On parle de récupération, le corps est une belle machine, ça prend un certain temps par contre, mais des fois on a envie d'avoir un enfant rapidement. Qu'est-ce qui est recommandé pour les grossesses successives, rapprochées?
Ce qu'on sait, c'est qu'on devrait laisser au moins un an et demi entre l'accouchement et le moment où est-ce qu'on retombe enceinte.
Donc, la conception de l'autre.
C'est ça. Parce que, dans le fond, les effets de la grossesse, comme qu'on a mentionné dans le podcast précédent, ça commence dès les premières semaines, au niveau du périnée, puis au niveau des différentes structures. Il y a aussi des choses à prendre en considération dans notre réflexion, puis d'où l'importance d'en discuter avec votre professionnel de la santé. Parce que si vous avez eu un accouchement qui était particulièrement difficile, ou est-ce que, exemple, vous avez eu l'utilisation ventouse forceps et vous avez eu une déchirure de grade 4, OK? Disons que ce type de déchirure-là peut amener son lot de petits problèmes, puis ça peut être un petit peu plus long pour la récupération. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez rester avec des séquelles. C'est pas ça que je dis. Par contre, ça peut être un petit peu plus long pour la récupération versus si vous avez une déchirure seulement de grade 1. Discutez avec votre professionnel de la santé à savoir, est-ce que lui pense que c'est une bonne idée par rapport à votre récupération au moment où est-ce que vous êtes? Parce souvent, on a les plans dans la tête de ce qu'on avait imaginé, puis qu'est-ce que notre corps va être physiquement capable de prendre? Donc, d'évaluer les risques, les pour, les contre, avec votre professionnel de la santé. Ça, des fois, votre physio-périnéale, si elle vous a suivi pendant votre récupération, elle peut donner son point de vue, mais la personne qui va finalement prendre la décision avec vous, ça va être la personne qui vous suit pour une éventuelle grossesse. Donc, soit votre gynécologue, groupe de médecins de famille obstétricale ou sage-femme. C'est ces personnes-là avec qui vous voulez vraiment jaser. Parce que il y a pour celles qui ont eu une césarienne puis qui souhaitent avoir un AVAC, vous avez des conditions particulières
à
respecter.
C'est l'accouchement vaginal après césarienne.
Exactement. Donc, si pour vous c'est important, ben sachez que ça prend un certain délai et que ça peut dépendre d'une femme à l'autre selon si vous avez eu une hémorragie, exemple, au moment de votre césarienne. Il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte.
Qui peuvent être aggravants aussi, là.
Oui, tout à fait. Okay. Votre âge, le terme de votre gestation, comment ça s'est passé, la récupération, etc. Donc, ça peut être très personnel. Donc, de pas se fier seulement à ce qu'on a vu sur un groupe Facebook que c'était correct. Puis après ça, d'être déçu parce que si au final, on avait attendu 4 ou 5 mois de plus, là, on aurait pu être une candidate pour la VAC.
Okay.
Donc, ça, important. La deuxième chose, justement, si on a gardé des séquelles d'un premier accouchement, si on a encore une diastase, si on a une descente d'organes qui est actuellement en traitement, si on a des fuites urinaires, si, tu sais, il reste des choses qui n'ont pas été travaillées, bien, sachez qu'avant votre récupération complète, c'est sûr que de rajouter une grossesse par-dessus, vous allez peut-être augmenter vos symptômes puis diminuer votre pronostic de récupération par la suite.
OK.
OK. Donc, ça...
Vaut mieux miser sur la prudence, dans le fond.
Exactement.
C'est ce que tu nous dis.
Mais ça peut être discuté. Puis si vous dites, ben moi, honnêtement, les fuites urinaires, ce qui me reste, c'est quand j'éternue une fois de temps en temps. Puis, tu sais, moi, honnêtement, c'est ça me dérange pas dans ma vie. Puis nous, c'est ça qu'on veut. On veut avoir un autre enfant, puis c'est tout de suite. Ben au moins, on prend des décisions qui sont éclairées. oui. dans le fond, qui ont été discutées. Quand on sait les pour, les contre, il n'y a pas de « j'aurais donc dû mm-hmm. » ou « avoir su, j'aurais fait ça différemment ».
Dans les circonstances de la grossesse et les impacts à long terme sur le corps, c'est mieux d'avoir des regrets que des remords. On dit le contraire habituellement, mais la prévention, c'est mieux. Et puis dans le doute, toujours consulter le professionnel de la santé ou une physiothérapeute comme toi, Stéphanie.
Ah, tout à fait.
Ben merci infiniment. On a bouclé la boucle pour notre postpartum. Si jamais vous avez des questions, des choses que vous aimeriez qu'on clarifie ou des choses qu'on a oubliées et que vous aimeriez savoir, écrivez-moi au leséphémères.balado@commercial.gmail.com. Ça va me faire plaisir de relayer l'information à Stéphanie et puis elle pourra nous répondre avant que ses deux enfants arrivent parce qu'une fois que les enfants seront là, elle aura moins de temps, mais on va toujours trouver moyen de répondre à vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Stéphanie, encore une fois, merci infiniment pour ton temps. J'espère que les épisodes vous auront plu. Et puis, si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt! Merci beaucoup d'avoir été là et de soutenir les éphémères. Si vous aimez ce que vous entendez, la meilleure manière de me le faire savoir, c'est de laisser un avis dans Apple Podcasts ou iTunes. Pour le faire, c'est assez simple. Dans Apple Podcasts, vous cherchez les éphémères, vous vous abonnez et ensuite, vous pouvez descendre tout en bas de la page et là, vous allez pouvoir laisser une note, un 5 étoiles de préférence et un commentaire. Donc, vous pouvez me dire ce que vous aimez le plus des entrevues que vous entendez et si ça vous aide de quelconque façon dans votre vie de maman. Bien entendu, n'hésitez pas à faire circuler les épisodes autour de vous. Et bien sûr, si vous voulez partager votre vécu ici ou alors me faire des suggestions de sujets à aborder dans le podcast, écrivez-moi. Vous pouvez le faire au leséphémères.balado@commercial.gmail.com et les éphémères sont aussi sur Facebook et Instagram. Donc, passez le mot autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.